France Culture.
Question d'Islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons du lien entre la langue et l'identité, tout particulièrement de la langue arabe et dans la tradition religieuse islamique, le fait que certains jeunes gens s'approprient cette langue comme un marqueur identitaire en France, et puis d'une manière générale, le positionnement que certains appellent une forme d'anthropolinguistique dans les études de radicalisation, dans certains cas, de l'identité de la personne, et en l'espèce la personne musulmane dans d'autres cas, avec Senoussi Ibn Mohamed. Senoussi Ibn Mohamed, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un fin connaisseur de ces questions. Vous êtes universitaire, vous travaillez dans le domaine de la psychologie sociale, vous préparez une thèse de doctorat justement sur ce sujet, et le cadre dans lequel vos travaux nous intéressent et intéressent l'émission, c'est l'intrusion désormais d'un vocabulaire particulier pour presque cimenter un groupe. Comme on peut avoir des accoutrements, qu'on peut avoir certains signes dits extérieurs, SER, les signes extérieurs de religion et non pas de richesse, il y a aussi le fait de se reconnaître entre soi par un vocabulaire déterminé.
Je préfère me présenter comme plus quelqu'un qui cherche à comprendre, à questionner, à se questionner, effectivement, sur la place et le rôle de la langue arabe dans la construction identitaire, notamment chez les bilingues.
Bilingues français-arabe.
Français-arabe, puisque sur la base d'un certain nombre de travaux scientifiques, il a été démontré que les bilingues ne prenaient pas les mêmes décisions selon la langue à travers laquelle ils discutent une situation donnée. Et si on applique ce postulat sur la thématique de la radicalisation violente islamiste, je me suis posé cette question de savoir quelle place a la langue arabe en tant que langue natale ou d'adoption dans la construction identitaire de ces personnes qui s'engagent dans ce mouvement.
Donc, si on reste dans le domaine et le processus de la radicalisation religieuse violente se fait ou se détermine aussi par une appropriation d'un élément linguistique.
Je peux dire oui. Avant de développer ce oui, je reprends l'épithète que vous avez choisi de parler de processus de radicalisation violente. Parce qu'effectivement, c'est un processus qui s'inscrit dans une temporalité plus ou moins longue, avec des parties émergées et parties immergées. Ce qui a été relevé, constaté sur le terrain, c'est que la langue arabe était une manière de s'identifier à l'image d'une tenue considérée dans le contexte islamique. Et
Tenue vestimentaire.
Et même, je dirais, une tenue dans le second sens. Comment se tenir.
Un comportement.
Une conduite. Et donc, cette langue, en l'occurrence l'arabe, de par sa dimension théologico-culturelle et culturelle et pratico-pratique, des éléments sur lesquels je peux revenir incessamment, elle a une place privilégiée dans cette construction identitaire. Comme la parole est intimement liée à la pensée, et on sait ça depuis au moins Héraclite, à travers le logos qui veut dire à la fois parole, langue et langage, et aussi le raisonnement logique et entendement.
Discours et discours, étude.
Voilà. Et puis, cette pensée va épouser finalement la forme de la langue qu'elle apporte. Cette pensée, une fois arrivée à maturité, construite, elle va se manifester, elle va se traduire à travers un comportement et un agir qui, in fine, va dessiner une identité donnée, dont ce rapport, ce lien intrinsèque et intime entre la langue et l'identité à travers ce chaînon de transmission qu'est la pensée ou le contenu idéal.
Comme un véhicule de la pensée ou de ce contenu idéal. Snoussi Ben Mohamed, l'élément linguistique censé appartenir à l'arabité uniquement va glisser petit à petit vers un univers islamisé. Donc, apparemment, il faut, pour ces jeunes gens qui sont dans ce processus de radicalisation, pour ne citer que cet exemple, matiner ou truffer leur vocabulaire par des maximum de mots arabes ou légèrement francisés.
Effectivement, l'une des raisons qui m'ont fait travailler sur cette thématique, et en l'occurrence sur la langue arabe, comme je l'ai dit, il y a trois raisons que je vais citer sommairement. La première raison est d'ordre théologico-culturel. La dernière version, je dirais, ou la mise à jour du message divin dans la tradition monothéiste abrahamique, c'est fait à travers cette langue. Le Coran, qui est le livre sacré des musulmans, a été récité, transcrit par dans cette langue. Tout musulman, qu'il soit dévot ou pas, pratiquant de langue d'Atouba, doit avoir un minimum de contact et donc de pratique de cette langue-là, pour faire ses prières ou pour commencer un acte de sustentation en disant Bismillah ou à la fin Alhamdoulilah.
Vous avez évoqué là la formule propitiatoire au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux,
voilà.
Ou grâce à Dieu, Alhamdoulilah, ou Allah Akbar aussi, qui est Dieu le plus grand.
Et le plus grand, effectivement. La deuxième raison, le deuxième élément est d'ordre culturel. Le message divin se voulant humain à destination, à dessein, la rencontre entre cette parole divine et les humains s'est faite dans un contexte anthropologique donné. Par anthropologique, j'entends l'anthropos, l'homme dans sa totalité, impliquant aussi bien les dimensions psychologiques que sociologiques, qu'économiques, qu'écologiques. Hein. Je reviendrai après sur cette...
La question de l'écologie.
Voilà, l'écologie, la dimension climatique. De fil en aiguille, à travers les 14 siècles, donc depuis la révélation, il y a eu un glissement d'un certain nombre d'éléments qui appartenaient au registre culturel. Ces éléments ont glissé pour devenir ou pour appartenir désormais à l'ensemble ou au registre culturel ou théologico-culturel.
Donc on passe du théologico-culturel au registre culturel.
Effectivement, et le produit cartésien, l'interaction entre ces deux ensembles n'a cessé de grandir avec une porosité très importante des parois et de l'ensemble de l'arabité et de l'ensemble de l'islamité.
Oui, je vous en prie.
On peut citer à cet égard la démarche, voire le réflexe de changer son nom pour les convertis, pour qu'il ait une consonance arabophonique. Donc le Jean-Michel devient Abou Bakr ou la Chloé devient Aya, justement pour avoir ce complément, je dirais, d'islamité qui initialement appartient à l'arabité.
Vous avez raison de le dire, parce qu'à ma connaissance, il n'y avait aucune raison de changer de prénom. À l'extrême rigueur, et encore, ils auraient pu arabiser leur nom, donc un Jean-Michel devient Yohanna Mikhaïl, par exemple, mais encore, il n'y a pas une exigence théologique à changer de nom ou de prénom si on embrasse la religion islamique.
En effet, puisque même les compagnons du prophète n'ont pas changé leur nom pour qu'ils deviennent islamiques.
Ou ailleurs, un Mambala en Afrique restera Mambala tout en étant musulman, ou en Chine, ou que sais-je encore. Ce n'est pas, encore une fois, une exigence théologique.
Effectivement, mais le constat étant que si on croise un chrétien arabe, ça va dénoter, je dirais. Puisque cette association entre l'arabité et l'islamité a été mise au jour, et puis mise à jour à travers tous ces siècles. Le troisième élément qui m'a fait intéresser à cette langue-là, c'est que dans les groupes terroristes à l'image de Daesh ou Al-Qaïda, leur structure sociologique, de nature hétéroclite et cosmopolite, fait qu'à un certain moment, il fallait faire un choix sur la langue utilisée pour pouvoir communiquer. Et comme l'arabe est la langue du sacré,
pour eux,
effectivement, et celle du sacrément culturel. Donc, c'est vers cette langue qu'a convergé le choix de la langue de communication dans ces groupes-là. Et ce qui ressort des entretiens et des lectures faites dans ce sens, c'est que la maîtrise de la langue arabe est une plus-value dans l'accès à des postes de responsabilité au sein de ces structures-là.
Oui. Il y a aussi un autre aspect, c'est celui du gentilé. On se fait appeler un tel Al-Souri de Syrie, Al-Misri d'Égypte, ou que sais-je encore, il y en a plein. Et aussi, parfois, il y a la fameuse Kounia, Abou un tel, le père d'un tel, allusion faite au prénom de l'aîné, de celui qui a des enfants.
Oui, ça c'est une question très pertinente à laquelle je n'ai pas de réponse bien développée, mais je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse. On peut partir du principe que la kunya fait réapparaître, pour la personne qui prend cette kunya, fait réapparaître le personnage auquel...
La kunya, pour nos amis auditeurs, c'est le fait d'appeler quelqu'un par...
L'alias.
Le prénom de l'enfant aîné.
Voilà, donc alias X, alias Y. Et donc, je pense que ce choix raccourcit la distance entre la personne qui prend cette kunya et donc le personnage auquel cette personne il s'identifie. S'agissant du gentilé, c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais il est remarquable de souligner que, outre les exemples que vous avez cités,
on a aussi Al-Ferenci,
c'est-à-dire
des gentilés relativement à la France.
Et ce à quoi je voulais venir, même si la personne vit en France, elle se réfère à un personnage historique du récit islamique, mais en même temps, elle se réfère également à
son française. Appartenance à la France,
voilà.
Aussi.
Ou la Belgique, pour
la Belgique.
De la Belgique. Mais je n'ai pas pu pousser la réflexion plus que ça pour pouvoir répondre à ce qui se joue dans ce choix et de la kunya, de l'alias et du gentilé.
Alors, qu'en est-il maintenant de cette identité religieuse parfois même exacerbé avec l'usage de ces termes arabes, à la fois pour les salutations et aussi leur propre vocabulaire quand ils sont entre eux, et parfois même en s'adressant à un exogroupe, comme on dit, et pas à l'endogroupe, ils utilisent, quitte à ne pas se faire comprendre parfois, quand il s'agit de s'adresser aux autres, en ayant cette diglossie, à la fois on a du français et on a de l'arabe.
C'est quelque chose qui est constaté sur le terrain, effectivement. Et ce que je peux apporter comme élément de réponse à cette question, c'est... je vais faire une petite parenthèse pour parler de la dynamique qui peut s'opérer au sein du groupe, de l'endogroupe, par rapport à l'exogroupe, comme vous l'avez dit. L'exogroupe considéré soit comme allié, soit comme adversaire, soit comme ennemi. Et dans tout groupe, il faut un ciment. Il faut quelque chose à laquelle on peut se connecter avec autrui. Et ce choix de la langue, donc de la diglossie, d'alterner entre l'arabe et le français, par exemple, voire l'arabe avec une autre langue, je pense qu'il s'inscrit dans cette volonté de s'identifier à l'endogroupe et de se différencier à l'exogroupe. S'agissant du pourquoi, moi je pense que le problème est pluridimensionnel, multifactoriel également, qui pousse ces personnes à adopter ce langage, en l'occurrence l'arabe, dans ce groupe et vis-à-vis d'un autre groupe. On peut aussi trouver un élément de réponse à cette question si on questionne la place de la langue arabe ici en France, dans le contexte européen. Il y a ceux qui parlent de la notion du marché linguistique. Comme dans un marché, il y a une valeur ajoutée à l'objet ou à la matière. Et la langue arabe, dans ce contexte-là, elle est, on va dire, sous-évaluée. Elle a une valeur moindre, inférieure, qui fait que le fait de l'investir ou de la surinvestir, c'est un message envoyé à l'exogroupe. Dans une étude récente que
j'ai... Pardonnez-moi, c'est Nussi Ben Mohamed. Il y a eu une réaction d'une députée en disant que oui, mais la langue arabe, c'est la langue du communautarisme. Or, il se trouve qu'indépendamment de toutes ces considérations, la langue arabe est une langue de travail à l'ONU, une langue de civilisation, une langue, indépendamment des considérations confessionnelles, est une langue du cérémonial des cours. Du droit, d'une nomenclature à un moment donné de la science, etc. Donc, vous pensez, à vous comprendre, que dès lors que ces jeunes gens avaient perçu que cette langue-là, qui pour eux est une langue sacrée, alors qu'en réalité c'est le discours coranique qui l'est, était plutôt... méprisé, brocardé ou non considéré, donc ils l'ont surinvesti davantage.
Je pense que oui, je pense que le fait que cette langue soit mal vue, hein, parce qu'associée à l'arabe, à l'étranger, aux radicalisés violents, et après chaque attentat, il y a des témoignages allant dans le sens que la personne a dit Allahu Akbar avant le... Donc il y a cette association qui se crée entre la langue arabe et la violence et l'infraction, etc. Et le fait de l'investir ou de la surinvestir s'inscrit effectivement dans cette démarche d'opposer quelque chose à l'autre. Quelque chose qui est sous-évalué, sous-estimé. Puisque vous, autre, vous la sous-estimez, moi je vais l'investir et la surinvestir. Permettez-moi de pointer un fait qui, pour moi, gagne à être mieux connu. C'est, comme vous l'avez dit, l'apport de la langue arabe dans la longue histoire de la science ou des sciences. Quand on voit les mots arabes qui ont glissé vers d'autres langues comme le français ou l'anglais.
Enfin, le fameux substrat arabe des langues latines, et dans l'exemple que vous voulez citer, c'est celui notamment de l'astronomie, où il y a des traductions et parfois les mots sont gardés tels quels. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons du lien entre la langue et l'identité, particulièrement dans le cas de ces fameux processus de radicalisation, le fait de cette appropriation de la langue arabe par des jeunes gens avec Snoussi Ben Mohamed, universitaire, travaillant dans le domaine de la psychologie sociale. Pour cette deuxième partie, en quoi, là aussi, si on est dans l'idéologie combattante, cette idéologie de combat, un combat sacré, la mobilisation des termes arabes ajoute à l'union du groupe. On aurait pu continuer à utiliser le français ou toute autre langue véhiculaire.
Pour répondre à cette question, je pense que il y a un lien conscient inconscient entre le terme en arabe et sa portée sacrée. Si on parle par exemple du combat, ce mot, ce dit mot, il ne va pas avoir le même impact si je le traduis en français, si je dis par exemple, plutôt si je le traduis en arabe en disant djihad.
Alors que le djihad, on voit la notion d'effort et pas la notion de qital.
Effectivement. Et donc là, on voit que...
est le combat.
Exactement. Donc là, on voit une différence entre le mot et son sens. Une fois, j'ai fait une petite expérience avec des étudiants que j'ai eus à l'université. J'ai séparé le groupe en deux parties. Pour la première moitié, je leur ai donné un mot, d'accord ? Et pour la seconde partie, je leur ai donné sa définition. J'ai exposé aux tables un certain nombre d'événements historiques et je leur ai dit, est-ce que ce que j'ai exposé renvoie à ce que vous avez sur le papier, sachant qu'ils ne savaient pas ce que l'autre avait. Et ce que j'ai remarqué, c'est que entre le mot et sa définition, il y avait un gap. Et le mot en question, c'était complotisme. Donc, entre le mot et sa définition, la perception différait. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une charge affective associée à la définition ou au mot qui a fait que les personnes ou les participants à cette petite expérience n'ont pas réagi de la même manière. Je pense que pour les termes djihad, le shahid, le martyr, etc., il y a une charge affective qui a été travaillée dans l'histoire qui fait que le mot tel entendu, tel écouté dans cette langue-là a une charge plus puissante que s'il est traduit.
Bien. Ça, c'est dans le cadre d'une approche martiale des faits et des choses. Vous nous l'expliquez, mais dans une situation ordinaire. Certains pensent qu'il faut investir le vocabulaire religieux uniquement par des mots arabes. Je parle de ces jeunes musulmans particulièrement. Parce que ça devient un marqueur identitaire et plus on enrichit son vocabulaire de ces termes arabes, mieux on est considéré, on monte en grade en quelque sorte.
Oui, puisque si on remarque et si on étudie la maîtrise linguistique des prêcheurs et des radicalisateurs, c'est des personnes qui finalement maîtrisent cette langue. Donc le fait de maîtriser cette langue leur donne une certaine autorité sur eux, le fameux biais d'autorité qui est travaillé par la maîtrise de la langue, l'éthos. Comme l'a nommé Aristote. Donc, l'orateur ou l'émetteur du message gagne dans son discours en utilisant des mots arabes et surtout avec une prononciation...
Un peu emphatique.
Voilà, bien emphatique. Ça va susciter davantage de pathos chez le récepteur. Le pathos étant l'émotion qui est impliquée dans ce triptyque d'Aristote, Logos, éthos et pathos. Et donc, je rappelle que même si l'héritage cartésien a fait qu'il y a eu une pratique de compartimentation, de séparation entre la raison et et l'émotion, les travaux en neuropsychologie démontrent le contraire, que la raison est intimement liée à notre rationalité.
Bien. Alors d'aucuns disent que la révélation est une raison de l'intérieur et la raison est une révélation de l'extérieur. Ou inversement. En tout cas, je l'ai déjà entendu. Passons à un autre registre, si vous voulez bien. C'est le fait de maîtriser davantage de termes. Plus le vocabulaire est riche, quand on a 30 000, 40 000, 50 000 mots, on peut aller dans la subtilité des choses et on est dans le registre ou le code élaboré. Alors que si on n'a que 300, 400 mots pour s'exprimer, on est dans un code restreint et on est potentiellement violent. Donc, une des manières ou un des canaux de lutte contre la radicalisation, ce fameux désengagement ou la déradicalisation, comme certains le disent, passe aussi par l'enrichissement du vocabulaire, que ce soit en arabe ou en français.
Oui, et là, vous faites référence à la théorie telle proposée par Bernstein, le code élaboré et le code restreint, qui a été reprise par Jean-Michel Bessette dans son étude du crime. Et il a fait cette corrélation entre un bagage de vocabulaire fourni et bien développé et la tendance à passer au geste, si j'ose dire. Et l'idée, c'est que la maîtrise du langage va servir comme médiateur entre l'attention et la solution. Autrement dit, si le langage faillit, le geste jaillit. En quelques mots. Et ce qui est intéressant aussi de souligner dans ce sillage, c'est que le rapport à l'autorité change. Dans le code restreint, l'adulte impose son autorité par l'autorité même. Tu vas m'obéir parce que je suis l'adulte. Tandis que dans le code élaboré...
On est dans un argument d'autorité.
Voilà. Tandis que dans le langage élaboré, là, il va y avoir une discussion... une argumentation, une démonstration du pourquoi, du comment, pourquoi non, pourquoi oui. Donc là, on voit que au-delà de la maîtrise de la langue, il y a aussi un rapport avec l'autorité qui change selon qu'on s'inscrit dans le code restreint dans le code élaboré, sachant que cette dichotomie n'est pas absolue. Hein, on s'en sert juste pour avoir un schéma d'analyse, mais on peut avoir les deux. Donc on n'a pas ça ou ça. Des fois, selon les contextes.
Je vous ai entendu une fois aussi expliquer que dans certains milieux dits aisés, on répugne à utiliser des mots apocopés, il n'y a pas d'apocope. Ni à Férez d'ailleurs, donc on ne dit pas ciné, mais on dit cinéma, on ne dit pas maths, on dit mathématiques, on dit professeur, on ne dit pas prof. En revanche, dans certains milieux défavorisés, où maintenant les choses se sont un peu plus généralisées, on parle avec apocope, ou à Férez, quand on dit ricain au lieu d'américain, où on dit... pitaine au lieu de capitaine.
Oui, si on applique une perspective psychologique à ce phénomène-là, on pourra le lire dans le sens suivant. Cette création de cette nouvelle terminologie se fait... par rapport à autrui. Si on considère, et dans le « on », j'entends le pronom indéterminé, si on considère que l'autrui est dominant et qu'on est dominé, on peut créer cette manière de parler qui est propre à nous, hein, pour se différencier de l'autre. Si l'autre utilise des mots sans apocope, sans etc., sans avérès, là, nous, on va s'inscrire en opposition par rapport à cette pratique.
C'est ce qui se passe ailleurs, dans certains quartiers, même aux États-Unis, en Grande-Bretagne, avec le slang, avec l'argot, avec tout type de discours et de vocabulaire qui marque presque comme un rituel l'appartenance au groupe.
Effectivement. Et dans cette contre-culture, si j'ose dire, il y a aussi un code propre à l'endogroupe. Hein? Donc l'autre, le dominé, va considérer ça comme une déviation, alors que le dominant, va considérer ça comme une déviation, tandis que le dominé va considérer ça comme une manière d'exister à travers une autre façon de s'exprimer.
Si on considère que maintenant ces jeunes gens, quand ils se retrouvent entre eux, a fortiori ceux qui ont des accoutrements improbables et même des barbes hirsutes ou des signes d'appartenance religieuse, commencent à parler davantage en termes arabes. Pensez-vous que l'on finirait par avoir une forme de koiné, une sorte de lingua franca propre à ce groupe et qui peut même le déborder, ou ça va finir finalement par rentrer dans l'ordre quand les problèmes, notamment sociaux, psychologiques, et ce sentiment à la fois de déclassement ou de domination disparaît?
Est-ce que ces conditions vont disparaître, la première question. Et la deuxième question, je dirais que la nature même des langues, c'est qu'elles évoluent. Et dire est-ce que cette pratique va se cristalliser, va se formaliser, il va être stabilisé par un vocabulaire particulier, je ne sais pas, sincèrement, je ne saurais répondre à cette question. Je pense que tout dépend des conditions anthropologiques, encore une fois, l'anthropose dans son sens le plus large, qui vont rythmer l'évolution de cette langue.
Vous disiez tout à l'heure que quand on est bilingue, le passage à l'acte de quelque acte notable, quel qu'il soit, n'est pas déterminé de la même façon lorsqu'on le préconçoit selon la langue dans laquelle on le formule ou on le prépare. Et pourquoi alors cette détermination?
Alors, l'explication qui a été donnée pour comprendre cette double prise de décision, hein, pour revenir aux travaux qui ont été publiés dans ce sens, c'est expliqué par un modèle dit du double circuit cognitif, emprunté à Daniel Kahneman, et qui a été repris par Albert Costa et ses collègues pour expliquer pourquoi les bilingues, selon la situation ou selon la langue à travers laquelle ils discutent une situation donnée, pourquoi ils ne prennent pas les mêmes décisions. Il y aurait donc un double circuit, un S1 porté par la langue natale alimentée par des éléments affectifs et émotionnels, caractérisée par le fait qu'il soit court, direct et rapide. Et puis un S2, un système 2 ou un facteur 2 pour d'autres auteurs, qui lui s'inscrit davantage dans une certaine rationalité s'agissant de la langue d'adoption, et qui lui, contrairement au S1, il est lent et indirect. Encore une fois, cette compartimentation n'est pas exclusive. Donc sur le plan cérébral, tout s'interconnecte, mais le modèle qui semble bien expliqué et résister au temps, je dirais, c'est ce modèle de double circuit. On mobilise le S1 ou le S2 selon
système
la nature.
Système 1, système 2.
Selon la langue. Et donc, si la langue porte sur un versant plus émotionnel et affectif, on va avoir un certain comportement, une certaine décision. Et inversement, dans la langue d'adoption, on va avoir plus de distanciation, plus de. On va être plus rationnel que dans le cas de la langue natale.
Certains disent on est meilleur poète dans sa langue maternelle, du sens.
Oui, oui, oui.
Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais
après, pour prendre des décisions, moi, je pense que c'est selon les décisions qu'on va prendre, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la séparation nette entre la raison et l'émotion n'existe pas réellement sur le plan cérébral.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, et aujourd'hui nous parlons du lien entre la langue et l'identité religieuse, le fait que des jeunes gens musulmans ou voulant montrer leur islamité par l'appropriation de plus en plus d'un vocabulaire riche en termes arabes, avec l'universitaire Senoussi Ben Mohamed qui travaille dans le domaine de la psychologie sociale et qui prépare aussi une thèse de doctorat sur ce sujet. Senoussi Ben Mohamed, il y a d'autres aspects qui sont parfois, étonnamment, et même c'est surprenant, on ne traduit pas certains mots et on les laisse tels quels, par exemple dans les versets coraniques, alors que le plus important, c'est de traduire leur sens que de les laisser tels quels. Je prends un exemple. On a deux versets, celui qui dit « Et celui qui désirerait ou qui voudrait comme religion autre que l'islam, ça ne lui sera pas agréé, il sera plus tard parmi les perdants. » Mais ici, il ne s'agit pas de l'islam comme le mahométanisme, j'allais dire, dans son aspect technique. C'est plutôt la définition du terme qui est la remise de soi confiante et dans la paix à, en l'occurrence, à Dieu. Et le fait de ne pas traduire le mot renvoie à la notion qu'il s'agit plutôt d'une religion déterminée venue avec un prophète déterminé, alors que plutôt l'islam dans son sens spirituel et même étymologique, c'est cet abandon paisible, cette manière de se remettre à Dieu. Et l'autre verset qui est « Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et j'ai accompli ou mes bienfaits pour vous et je vous ai agréé ». Et on ne traduit pas le mot « islam » dans sa définition, on le garde comme religion. Alors qu'en réalité, c'est là aussi le fait de s'abandonner à Dieu.
Là, vous avez mis le doigt, pour moi, sur le problème. Le problème, et si vous me le permettez, je vais
et je vous en prie.
Je vais construire ma réponse sur deux plans. Le premier plan est celui de la traduction, de la traductologie. Partant du principe que dans une traduction, on passe d'un texte A à un texte B, d'un texte source à un texte cible. Les traductologues distinguent deux méthodes ou deux façons de faire. La méthode dite sourcière, le cas échéant, on va s'approcher le plus possible du texte source, quitte à reprendre des mots tels quels ou de créer des néologismes. Et la seconde méthode est dite cibliste. Et dans ce cas, l'intérêt est porté davantage sur l'aspect stylistique et esthétique du texte, de manière à ce qu'il paraisse comme s'il a été écrit dans cette langue initialement. Et toute la difficulté est donc de où placer le curseur entre le texte source et le texte cible. Et pour répondre à cette question, la phrase qui me semble pertinente, c'est de pouvoir traduire aussi près qu'on peut et aussi loin qu'il le faut. Mais ça reste un challenge, c'est pour ça que les Italiens disent traduttore, traditore, le traducteur est un traître, parce que le passage d'une langue à une autre cause incontestablement une perte sémantique. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est le débat entre arabophones en intramuros, en interne. Si je prends l'exemple de la synonymie, par exemple, entre ceux qui l'approuvent, la synonymie, j'entends une synonymie bijective, absolue,
stricte,
où le changement de terme ne cause aucune perte sémantique.
Et c'est une porte bab.
Voilà, c'est exactement la même chose. Et c'est le courant, l'école qui a prévalu dans la langue histoire de la linguistique arabe. La seconde école ou le second courant, au contraire, il s'inscrit en faux par rapport à ça et part du principe que le changement de l'orthographe, du véhicule phonique implique de facto un changement de sens, ne serait-ce que minime. Et en parlant de ça, je reviens à l'exemple que vous avez cité s'agissant de la religion din, inna din indallah
l'islam. La religion auprès de Dieu et l'islam.
Voilà. Donc là, si on applique ces deux filtres, encore faut-il être d'accord sur la définition donnée à din. De quelle racine trilitaire ? Quel a été le sens initialement ?
Est-ce la créance ? Est-ce la religion ?
Exactement.
Est-ce la loi ?
Exactement. Et comment ce terme a évolué dans le temps ? Et pareil pour l'islam. Qu'est-ce qu'on entend par l'islam ? Est-ce que les cinq piliers de l'islam, qui ne sont pas tels quels cités dans le texte premier des musulmans, à savoir le Coran, ou de la racine trilitaire SLM ? Et si on applique cette règle-là, on verra une toute autre herméneutique du mot et de l'expression même. Parce que si on pousse cette réflexion un peu plus loin, Partant du principe que le changement de son implique un changement de sens, il y a ou il y aura une différence entre le mu'minun, l'adina amanu, l'adina yu'minun. Les croyants, ceux qui ont cru et ceux qui croient. Donc, c'est pour dire que le travail est titanesque, comme vous le dites, dans ce chantier retravailler le texte et aller chercher le sens initial, comment il a évolué, comment il a été compris, etc. etc. Et pour certains, par exemple, pour reprendre cet exemple, en l'occurrence, Dean, quand dans le verset il dit « وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ النَّصَرَ حَتَّى تَتَّبِعَ
مِلَّتَهُمْ
Ils n'ont pas dit « نَهُمْ ».
Il faut peut-être traduire pour nos amis auditeurs, les Juifs et les chrétiens ne seront point satisfaits de toi tant que tu n'as pas suivi, alors cette fois-ci ce n'est pas leur religion, mais leur, et comment traduit-on donc la Milla ?
Exactement. Est-ce que c'est leur obédience ? Est-ce que c'est... Donc, c'est tout un travail. Déjà, cette nuance n'est pas aussi conscientisée, je dirais, dans les milieux arabophones, de cette différence entre Din et Milla, comme entre le statut du prophète et le statut du messager, et le statut de Mohammed, la personne.
Et... qui ne sont pas tout à fait interchangeables.
Exactement. Et si on applique cette règle rigoureuse de dire que à chaque son ajouté, un sens s'y ajoute également, le prophète, le statut du prophète n'est pas le même que le statut du messager et idem pour le statut de Mohammed la personne. Et
qui, avant de recevoir les signes prodromiques annonciateurs de sa prophétie, était, et comme il le disait lui-même, un mortel parmi les mortels.
Exactement. Et puis, le statut de l'Bashir et de...
Nadir. C'est-à-dire l'annonciateur de la bonne nouvelle et l'avertisseur d'un jour du jugement dernier.
Donc là, au moins, on a cinq sens qui s'entrecroisent, hein, mais... qui ont des spécificités et des particularités sémantiques propres à eux. Alors que le courant qui a prédominé jusqu'à présent, c'est celui de la synonymie bijective, ou ce qu'on appelle « ator taradouf », parce que je pense que le terme le plus approprié, c'est « tatabur », si je dis bien, c'est une superposition absolue, puisque « taradouf » dans la langue arabe, je me permets cette petite incision, dans le nom d'agent Radif, et Radif c'est celui qui se met derrière le cavalier collé à lui. Donc c'est pas exactement le cavalier, il forme un même corps, il forme une unité, mais chacun a sa particularité, a son individualité. Je pense que c'est dans ce sens qu'il faut voir les synonymes. Al-Mutaradifat, c'est des termes qui pointent vers la même chose, qui convergent vers quelque chose, mais la superposition sémantique absolue stricte, je ne pense pas qu'elle puisse exister si on se veut rigoureux dans notre méthodologie de travail.
Ça, nous avons débordé le cas de cette jeunesse qui est dans un processus de radicalisation à référence islamiste, pour utiliser le vocabulaire approprié. Et donc, la dynamique linguistique entre dans une stratégie identitaire. C'est ce dont nous parlons depuis le début de l'émission. Et vous pensez que ça va continuer dès lors que les conditions demeurent, ou ça va évoluer et ça, même les choses ne connaîtront pas les crispations que nous connaissons maintenant, puisque même certains non-musulmans utilisent ces termes. Il m'est arrivé d'entendre des jeunes gens dire « je jure sur le Coran de la Mecque ». C'est une phrase qui n'a pas beaucoup de sens, mais qui ne sont pas nécessairement musulmans, parce qu'ils font partie, j'allais dire, d'un même... où ils vivent dans un même contexte.
Oui, là, vous me permettez d'ajouter un point qui est en lien avec le précédent. En évoquant cet écueil de la traduction et cet écueil de la synonymie objective, je souligne par l'occasion la difficulté pour un allophone de travailler sur la thématique de la radicalisation violente, qui plus est que quelques mois, pour sortir avec une conclusion prête à être consommée. Je ne dis pas que l'allophone n'a pas le droit de s'y intéresser, au contraire, puisque le message divin est universel. Donc, il faut qu'il y ait l'allophone, il faut qu'il y ait l'arabophone, il faut qu'il y ait le bilingue pour que les efforts soient conjugués afin de s'approcher le plus possible à une compréhension savante et éclairée. Pour continuer à répondre à votre question, une fois j'ai posé la question à quelqu'un, un sage que je considère comme sage, il m'a dit que il pense que dans deux générations, si les choses s'améliorent, pas profondément, mais il pense que on sortira de cette impasse, à condition que un minimum soit fait. Et pour que justement cette identification à l'endogroupe et contre l'exogroupe ne soit pas un marqueur identitaire qui passe par la langue. À cela s'ajoute l'évolution naturelle des langues. Voilà. Donc je réponds prudemment, même si je ne sais pas si j'ai répondu.
Je vous en prie, c'est que nous arrivons
à la question.
Simplement au terme de l'émission. Merci, cher Senoussi Ben Mohamed, d'être venu nous parler de cette dynamique linguistique et ces stratégies identitaires. D'abord pour toute une jeunesse musulmane et particulièrement pour celle qui est tenté d'aller trouver des voyages au bout de l'inhumain dans ces processus de radicalisation. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission et Thierry Beauchon. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Dofal Guérit et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.